Il est maintenant 20h30, donc ici à Paris, c'est toujours Radio France Internationale que vous écoutez.
Afrique Soir.
C'est avec vous Arthur Ponchelet, bonsoir.
Bonsoir Philippe et bonsoir à vous qui nous écoutez. Avec le Soudan, à la une de ce journal, un groupe pro-démocratie fait état de combats sanglants dans le centre du pays. Des attaques imputées aux paramilitaires des forces de soutien rapide, pas de bilan officiel, mais des sources locales font état de centaines de morts. On fait le point dans un instant. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères en tournée sur le continent ce week-end, Andriy Sybiga, était en Égypte aujourd'hui pour présenter le plan de Kiev pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Le Caire a lui réaffirmé sa neutralité dans le conflit. Au sommaire également, relatif retour au calme au Mozambique après plusieurs jours de manifestations sur fond de contestation des résultats des élections générales. Et puis nous irons au Ghana, dont la ministre des Affaires étrangères est devenue la 7e secrétaire générale du Commonwealth. À la tête de l'organisation internationale, elle entend se pencher sur la question des réparations de la traite d'esclaves. Mais avant de développer ces titres, c'est l'un des événements sportifs emblématiques du continent. Le Tour cycliste du Faso, dont la 35e édition se dispute actuellement, est retiré du calendrier de l'UCI, l'Union Cycliste Internationale. En cause, Thomas de Saint-Léger, la participation à la course d'une équipe russe invitée par les organisateurs.
Sur ce point, le règlement de l'Union cycliste internationale est clair. Pas d'équipe russe ou bélarusse au départ d'une course UCI, mesure en vigueur depuis le début de l'invasion de l'Ukraine il y a plus de 2 ans et demi et forcément connue des organisateurs du Tour du Faso. Ceux-ci ont pourtant convié au départ de la 35e édition de leur course le CSKA Moscou et son maillot floqué Russian Army, armée russe en français. L'UCI est mis au courant avant le départ de la première étape et demande immédiatement le retrait de cette équipe. Un courrier officiel est adressé. Il restera lettre morte. L'instance mondiale a donc pris hier la décision de retirer l'épreuve de son programme. D'autres mesures disciplinaires pourraient suivre. Et même si la deuxième étape s'est disputée normalement aujourd'hui, cette mise au ban du calendrier officiel pourrait avoir de lourdes conséquences. Course référence en Afrique, le Tour du Faso souffrait ces dernières années de la situation sécuritaire du pays. L'édition 2022 avait même dû être annulée. L'épreuve survivait depuis sur sa réputation et sur le maintien du label UCI, indispensable à l'attractivité du Tour. Son avenir, aujourd'hui, s'inscrit en pointillé.
Thomas de Saint-Léger du service des sports de RFI. Au Soudan, les forces de soutien rapide, les FSR du général Emeti, sont accusées de se livrer à des massacres de civils. Des attaques ont eu lieu dans plusieurs villages de l'État de Guézira, dans le centre du pays. Bonsoir Florence Maurice.
Bonsoir.
Les bilans humains sont difficiles à établir, mais des sources locales évoquent des centaines de morts.
Oui, la semaine a été sanglante dans cet État du sud de Khartoum. Parmi les villages attaqués, ceux de Al-Saïra et Arzak, selon le comité de résistance d'un village voisin, les paramilitaires des forces de soutien rapide y ont imposé un siège total aux habitants et multiplient les exactions contre les civils. L'accès au terrain est impossible et les communications sont coupées. Il est donc difficile de vérifier les bilans. Mais à en croire les listes de victimes diffusées par les habitants, rien qu'à Al-Saïra, on comptait déjà ce matin plus d'une centaine de morts et de nombreux blessés. Les attaques contre des civils dans cette zone ont débuté dimanche dernier et elles se multiplient depuis. Il s'agirait d'une opération de représailles de la part des RSF après que leur commandant régional a décidé de faire défection pour rejoindre l'armée régulière. Selon le syndicat des médecins soudanais, le degré de violence est tel que les opérations de sauvetage pour venir en aide aux blessés sont devenues impossibles. Le syndicat appelle les Nations Unies à faire pression pour obtenir la mise en place de couloirs humanitaires vers des villages sûrs.
Florence Maurice en direct dans Afrique Soir. Suite de la tournée arabo-africaine du ministre ukrainien des Affaires étrangères, après le sultanat d'Oman et l'Angola, Andriy Sybiga était au Caire aujourd'hui, où il a rencontré son homologue égyptien. Objectif de cette rencontre, promouvoir le plan de Kiev pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Correspondance dans la capitale égyptienne, signée Alexandre Bouchanti.
Le ministre ukrainien a exposé à son homologue égyptien le plan de Kiev pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Un exposé auquel l'Égypte a répondu en réaffirmant sa neutralité dans le conflit russo-ukrainien. L'Égypte est attachée à la souveraineté des États et à l'intégrité de leur territoire, a indiqué le ministre égyptien avant d'ajouter que l'Égypte estime qu'il faut remonter aux racines du conflit pour lui trouver une solution politique et diplomatique. Le ministre a aussi souligné l'impact négatif de cette crise sur les pays du tiers-monde et leur sécurité alimentaire. L'Égypte importe une bonne partie de son blé d'Ukraine. Toutefois, la Russie reste le premier fournisseur des 10 millions de tonnes de blé importées annuellement par l'Égypte. L'Égypte, qui est le plus grand acheteur de blé au monde et le plus grand consommateur de pain par habitant. Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Et le ministre ukrainien des Affaires étrangères poursuit ce week-end sa tournée sur le continent. Il doit arriver ce dimanche en Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire a rapatrié aujourd'hui son ambassadeur au Liban ainsi que le personnel diplomatique en poste à Beyrouth. Conséquence du conflit qui secoue en ce moment le Moyen-Orient, 60 ressortissants ivoiriens ont également décidé de rentrer dans le pays, précise le ministère des Affaires étrangères. Ce matin, une dizaine de personnes ont débarqué à Abidjan, les traits tirés. Notre correspondant Benoît Almeras était à la descente de l'avion. Reportage que vous pouvez retrouver sur notre site RFI.fr. Retour au calme relatif au Mozambique. Des manifestations avaient éclaté jeudi dernier après l'élection controversée de Daniel Chapo. Le candidat du Frelimo, le parti au pouvoir, a été déclaré vainqueur des élections générales par la commission électorale. 71% des voix pour lui, loin devant les 20% du candidat du parti Podemos. Podemos qui rejette les résultats, tout comme la Renamo, le parti historique de l'opposition. Les deux formations avaient appelé leurs partisans à descendre dans la rue pour dénoncer ce qu'ils estiment être une victoire volée. Christina Okello, quelle est l'ambiance sur place à présent ?
Alors que les magasins rouvrent et que les habitants tentent de reprendre leurs activités, les rues de la capitale Maputo portent encore les stigmates des violences de ces derniers jours. Partout, des pneus brûlés, des vitres brisées et d'autres débris jonchent encore les rues. Autre signe de cette instabilité, l'accès à Internet, perturbé depuis hier, reste limité. Une coupure qui viserait l'opposition. Le très connecté et candidat malheureux à la présidentielle, Venancio Mondlane, avait en effet encouragé ses jeunes partisans à se coordonner sur les réseaux sociaux pour paralyser le pays. Le Podemos et le Renamo rejettent les résultats des élections générales du 9 octobre, dénonçant un processus qu'ils qualifient de biaisé en faveur de Frelimo. De son côté, l'Union européenne a émis des réserves quant à la transparence du compte des voix et condamne la violente répression des manifestants après la mort d'une personne à Nampula, dans le nord-est du Mozambique. Un mort qui s'est produit lors d'affrontements entre manifestants et police. Plus de 300 arrestations ont déjà été signalé. Et malgré les risques des répressions, Venancio Mondlane a annoncé aujourd'hui qu'une troisième journée des manifestations débutera lundi.
Christina Okello, elle devient la deuxième secrétaire générale du Commonwealth, originaire d'Afrique. La ministre des Affaires étrangères du Ghana a été nommée par les membres de l'organisation internationale qui regroupe 56 pays à travers le globe. Shirley Ayorokor-Botchwe débute un mandat de 4 ans, une fonction qu'elle a notamment décidé de dédier à la question des réparations de la traite d'esclaves. RFI Accra, Victor Cariou.
Shirley Ayorkor-Botchwe porte une vision d'inclusivité et de progrès qui, je le sais, inspirera la famille du Commonwealth. Voici la réaction du président ghanéen Nana Akufo-Addo au lendemain de l'élection de sa ministre des Affaires étrangères à la tête de l'organisation intergouvernementale. Elle succède ainsi à la diplomate britannique Patricia Scotland, première femme à occuper ce poste et devient, après le Nigeria, la deuxième représentante du continent africain au secrétariat général. Une fonction que Shirley Ayorkor-Botchwe entend donc dédier à la mise en place de réparations pour les pays victimes de la traite d'esclaves. Elle a par exemple plaidé ces derniers mois pour que les États membres du Commonwealth, dont plus d'un tiers sont africains, s'expriment d'une même voix sur le sujet. C'est d'ailleurs à Accra que, en novembre 2023, s'était tenu un sommet international pour la réparation de l'esclavage. Une question qui a fait l'objet de tensions entre le Royaume-Uni et ses anciennes colonies lors de ce sommet des chefs d'État du Commonwealth. Ce dernier s'est toutefois conclu ce samedi par une déclaration commune des 56 chefs d'État, le communiqué indiquant, je cite, qu'il était temps d'avoir une véritable et honnête conversation sur de futures réparations. Victor Cariou, Accra. RFI.
Accra, où il est 18h40, 20h40, ici dans nos studios à Paris. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est Géopolitique sur RFI.